tous et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante, coproduit avec La Hacienda, la communauté des fans de Silicon Carnet. Mon nom est Carlos Diaz, investisseur, entrepreneur et podcasteur. Je suis le gringo en chef de cette émission. Je vis à San Francisco depuis maintenant plus de 10 ans et je vous propose chaque semaine de décoder avec mes invités les sujets caliente de la Silicon Valley. Rien ne va plus chez Twitter depuis que Elon Musk a déboursé pas moins de 44 milliards de dollars pour libérer l'oiseau bleu des griffes de ses actionnaires. Les dernières semaines ont été l'occasion de licenciements massifs et une chose est sûre, à peine arrivé, Musk a su créer le chaos. Absence de leadership, tweet de mauvais goût, processus de licenciement bâclé, annonce retentissante et modèle économique en panne. Rien ne va plus chez Twitter. Cette semaine, on fait le point ensemble sur le feuilleton Twitter. Alors, asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil, faites sauter les pop-corns et profitez du spectacle. Alors, c'est une émission un peu spéciale. J'ai pas l'habitude dans Silicon Carnet de commenter l'actualité, mais l'occasion là était trop belle. Et puis, tout ce chaos en dit long sur ce qui se passe en ce moment dans la Silicon Valley. Et pour préparer cette émission, j'ai contacté mes amis chez Twitter. D'abord pour savoir ce qui en était de leur sort. Et sur les quatre personnes que j'ai contactées, tout le monde a été licencié. Et je leur ai proposé de venir témoigner de leur expérience. Mais aucun d'entre eux n'a souhaité participer, prétextant que le sujet était trop chaud pour prendre position publiquement. Alors du coup, je me suis replié sur mon pote Damien Douani, qui est un observateur, c'est un éclaireur du numérique, et je lui ai demandé de venir dans Silicon Carnet avec moi cette semaine un peu en urgence pour m'aider justement en tant qu'éclaireur du numérique à y voir plus clair. Salut Damien, bienvenue dans Silicon Carnet à nouveau.
Salut Carlos, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec toi. Donc en gros, c'est un plan B, c'est ça hein, que t'as cherché.
C'est mon plan B. Non, mais pas du tout. Je pensais t'inviter, mais j'aurais bien aimé mettre à côté de toi quelqu'un qui a vécu le truc de l'intérieur.
J'ai un peu regardé de mon côté indiscrètement aussi en France, 2-3 personnes, et on m'a répondu non, on peut pas parler.
Ils peuvent pas parler parce que je sais pas. Mais en même temps, il y a un truc très intéressant. Il y a une de mes copines qui est chez Twitter et qui m'a dit, mais de toute façon, Carlos, je n'en sais pas plus que tout ce qui a été raconté sur Internet. Donc de toute façon, je ne vais pas pouvoir te dire beaucoup plus que ce qu'on peut déjà lire. On a l'impression, Damien, que c'est... tu sais, il y a le phénomène « build in public », et il y a aussi maintenant le « fail in public ». En fait, grosso modo, c'est-à-dire que tout ce qui se passe est immédiatement disponible, online. Et on a des révélations tous les jours.
C'est un peu la baseline de Twitter. Hein. C'est, en gros, c'est quand tu veux savoir ce qui se passe, tu vas sur Twitter. Ce qui se passe sur Twitter, tu regardes l'actualité, tu regardes Twitter. Donc, je pense que Twitter est parfaitement aligné avec son ADN. Ouais. Mais je pense que les salariés n'ont pas du tout la moindre idée. Enfin, tout ce qu'ils voient, c'est est-ce qu'ils ont encore accès à leur Google Mail ou pas, quoi.
Et alors Slack, visiblement, on a appris que beaucoup de la collaboration chez Twitter interne avait lieu sur Slack, puisqu'il y a beaucoup de messages de Slack qui sortent dans le domaine public et c'est assez croustillant. Alors, juste petit message, et tiens d'ailleurs, je sais que ça t'intéresse, Damien, je vais créer un NFT spécial pour cette émission. Vous savez, il y a ces NFT, je mint chaque épisode sous forme de NFT, ça s'appelle des Official Guardians, donc vous pouvez devenir le gardien officiel de cette émission et du coup, l'émission sera disponible sur Internet éternellement grâce à vous. Et je vais changer un peu la formule. D'ailleurs, je t'en ai pas parlé. J'espère que t'es OK. Coup, mais il y aura 10 NFT de cette émission. Et si tu es un Official Guardian, tu fais partie aussi du comité éditorial de Silicon Carnet et tu viens discuter avec moi des prochaines émissions et me donner aussi ton feedback sur les émissions que j'ai enregistrées. Mais en plus, je voudrais rajouter quelque chose. D'abord, parce que c'est ce que m'a dit le comité éditorial la dernière fois. Moi, toutes les émissions, je prépare, je rédige tout. J'ai des notes en face de moi qui sont ultra rédigées et assez longues. Et je vais les partager. En fait, la personne qui aura le NFT Official Guardian de l'émission, je vais lui envoyer toutes mes notes avec plein de liens aussi qui m'ont permis de créer cette émission. Et un autre truc auquel je pensais, c'était faire une intro à mon invité, c'est-à-dire que les 10 propriétaires du NFT Official Guardian bah, je te les présenterai. Et s'ils ont des questions à te poser directement, ils pourront le faire aussi. Donc voilà, c'est aussi une façon d'élargir votre network, votre réseau et de rencontrer des gens géniaux comme Damien Douani aujourd'hui pour cette émission.
Donc achetez, allez-y, achetez les
NFT. Ouais, ça sera pas cher, ça sera pas cher. Voilà. Bon, écoute.
Non, c'est une très bonne idée, soit en passant de partager les notes. Parce que tu vois, moi, donc tu le sais, tu l'as dit, moi je fais le podcast des Éclaireurs du Numérique et c'est vrai que très souvent...
Ouais, parle-nous-en un peu de ce podcast.
Alors vite fait, oui, les Éclaireurs du Numérique, 4 saisons, 150 épisodes. On vient d'en enregistrer un à l'Assemblée nationale, la consécration ultime. Des députés nous ont demandé de venir pour qu'on leur explique des choses sur la cybersécurité. C'est un épisode qui devrait bientôt sortir. On attend la validation, on va dire, de la com de l'Assemblée nationale pour pouvoir le sortir. Mais c'est cool. Et donc voilà, donc chaque semaine, on sort un épisode, soit entre nous trois, avec Bertrand Lenôtre et Fabrice Epelmoin. On se parle de plein
de choses. Moi, je suis gros fan de Fabrice Epelmoin. Moi, je suis un fan total de Fabrice. D'ailleurs, si tu le crois, tu lui dis qu'en fait, je voue un culte à Fabrice qui me fait marrer, quoi, qui est un punk absolu et que j'adore. Et j'écoute les Éclaireurs du Numérique chaque semaine religieusement. Et je vous adore, les gars.
Ben c'est très gentil. Donc Bertrand, le journaliste, Fabrice, le hacker punk, et moi, le geek des nouveaux usages. Et, ouais. Et donc voilà. Et donc on parle, on n'a pas encore fait de numéro sur Twitter, mais on reçoit des gens. D'ailleurs, une fois qu'on t'accueille, un de ces jours, Carlos, je crois
avec plaisir. Pas, si on fait, d'ailleurs. Non, et je suis jamais passé. Donc, je suis un fan, mais vous m'avez jamais fait passer dans l'émission. Et ben, tu vois, tu sais quoi? Tu vas pouvoir acheter le NFT de cette émission. Et comme ça, tu auras toutes mes notes sur Twitter et vous allez pouvoir faire votre émission sur Twitter. Voilà. C'est la moitié du boulot sera fait.
Pour revenir à ce que tu disais, c'est une super idée de vendre de mettre donc en vente le NFT avec les notes. Parce que quand je vois effectivement tout ce que nous aussi on écrit pour préparer,
c'est taré.
Finalement, c'est vrai que c'est une mine assez intéressante. Donc allez-y, pensez-y, achetez le NFT de l'émission et devenez aussi un gringo en chef pour faire en sorte.
Ouais, voilà, rejoignez le gringo, rejoignez l'Hacienda. On se marre. Voilà,
rejoignez l'Hacienda et on s'amuse bien à l'Hacienda.
On va rentrer dans le vif du sujet qui est ce chaos chez Twitter. Et ce que je te propose, Damien, c'est de repartir un petit peu en arrière et de refaire un peu le feuilleton de Twitter, parce que je ne sais pas si tout le monde a suivi les épisodes. Alors moi, j'ai fait justement ce travail de reprendre un petit peu la chronologie des faits et de revenir un peu sur les derniers développements. Et je te propose de faire un petit récap justement des derniers épisodes. C'est un peu comme une série sur Netflix.
Ça fait très previously.
Voilà. Previously, dans les précédents épisodes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors, Twitter et Musk, bon, on peut dire que c'est une longue histoire, hein, Damien. Hein. C'est Musk est devenu une sorte de figure de proue du réseau Twitter. Il n'a pas commencé au début sur Twitter, d'ailleurs. Hein. Il n'était pas au tout début de Twitter. On l'a vu apparaître sur Twitter en 2010. Et aujourd'hui, il a 80 millions de followers, ce qui est juste hallucinant. Et je crois savoir que c'est un ami intime de Jacques Dorsey.
Oui. Alors, effectivement, ils se connaissent bien les deux. D'ailleurs, ils ont une relation un peu bizarre, je trouve. Je t'aime moi non plus, je trouve, parce que, bon, peut-être qu'on en parlera plus tard. Hein, Jack Dorsey, il a un petit côté hippie New Age.
Totalement. On sent qu'il est sous LSD. Hein, faut regarder les photos de l'évolution de Jack Dorsey, qui est le fondateur de Twitter. Regardez les photos du début, où il est en costard-cravate super classe, machin, ta-ta-ta. Et aujourd'hui, il a une barbe, il est habillé en hippie, quoi, clairement, quoi. Oui. Sans qu'il prend des trucs.
Mais ils se connaissent bien les deux et la rumeur dit que quelque part c'est même lui qui aurait poussé Musk à racheter Absolument. Twitter parce qu'il n'avait pas réussi à faire exactement ce qu'il voulait de Twitter. Ouais. Mais bon, là, depuis quelque temps, il critique d'ailleurs Musk et puisqu'il veut lancer, on en parlera certainement plus tard. Il a lancé une contre-offensive. Il veut lancer Blue Sky. Mais ça,
oui, qui est une sorte de réseau social cette fois décentralisé. Autour de la blockchain, etc., etc. Bah, alors, le 14 avril dernier, reprenons la chronologie, 2022, hein, on a un Musk qui annonce vouloir faire l'acquisition du réseau social, certainement poussé, comme tu dis, par son pote Jack Dorsey, qui s'était fait dégager entre-temps. Enfin, il est parti, mais bon, on a bien compris qu'on l'avait un peu poussé dehors. Et parce qu'il annonce faire l'acquisition, parce que finalement, ça fait un petit bout de temps qu'il rachète des parts de Twitter et que au mois d'avril dernier, il s'est rendu compte qu'il était le principal actionnaire. Il avait 9,1% des actions de Twitter. Et là, comme à son habitude, il fait une annonce retentissante. Il dit « je vais racheter Twitter ». C'est ça ce qu'il dit au public. Tu l'avais vu ce tweet, Damien ?
Je l'avais vu, effectivement. Ouais, il nous a fait ce qu'on appelle techniquement une Bolloré. En fait, il rachète par petits bouts. Et puis, à un moment, le mec, il dit « je rachète ». Voilà. Donc, en fait, vous ne pouvez pas me déloger. Donc, c'est ce qu'il a fait. Après, on peut se dire aussi qu'il y a des... Peut-être. C'est une des raisons qui fait que ça fout le bazar aujourd'hui. Il y a peut-être des envies politiques derrière. c'est le côté le milliardaire qui achète un média.
Ton parallèle avec Bolloré est assez intéressant. On pourrait le faire avec Xavier Niel ou avec Arnaud ou Pinault. Mais c'est vrai, on voit de plus en plus aujourd'hui de milliardaires faire l'acquisition de médias. Ça, c'est sûr.
En gros, quand t'es milliardaire, il faut que t'aies un média. D'une manière ou d'une autre, quand tu regardes, c'est un peu ça.
Ou que t'envoies une fusée dans l'espace qu'il avait déjà fait. Alors Bolloré, il envoie pas encore des fusées dans l'espace. Mais il envoie des voitures électriques dans Paris, quoi. Mais c'est à peu près la même chose.
C'est à peu près pareil. Dans tous les cas de figure, c'est quand même des grands capitaines d'industrie. Il lui manquait un média à Musk, donc peut-être que ça peut être ça. Il y a aussi des envies politiques, hein, le côté free speech, libertarien qu'il défend et qui fait qu'on pourrait croire qu'il fricote un peu avec Trump. Tous ces trucs-là, c'est un peu bizarre. Donc on ne sait pas trop s'il s'est payé un média, s'il s'est payé Twitter parce qu'il avait envie de libérer l'oiseau, s'il s'est dit c'est un nouveau défi entrepreneurial pour moi parce que j'avais du temps à perdre entre Tesla, SpaceX, etc.
Bon, on a du mal à l'imaginer, mais pourquoi pas. En fait, moi j'ai déjà du mal entre Silicon Carnet, Uncut et mon fonds Diaspora Ventures, donc je me dis je sais même pas comment caser ma musique par exemple, donc lui il a du temps entre Tesla, SpaceX et puis le reste, Neuralink, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, le rachat c'est pas fait si facilement que ça. Il a annoncé ça. Alors au début, tout le monde a accueilli ça avec beaucoup d'enthousiasme, hein. D'ailleurs, même il a été invité à rejoindre le board de Twitter. Il a d'abord accepté, puis finalement, il a refusé. Et là, ça a commencé à merder, quoi. Ça, c'est à partir de ce moment que les choses sont devenues un peu intéressantes. Et d'ailleurs, que la Silicon Valley a pris ses popcorns et a commencé à... c'est devenu un feuilleton à ce moment-là. Parce que là, on a senti qu'il y avait, certes, une annonce de vouloir racheter Twitter. Un actionnaire majoritaire, Musk, chez Twitter, qui a des revendications par rapport même aux produits. Et un clash entre le CEO de Twitter... et Musk, puisqu'il refuse de rejoindre le board à ce moment-là. Il y a un vrai conflit entre le conseil d'administration de Twitter et son principal actionnaire, ce qui est généralement jamais très bon.
Oui, et on ne sait pas s'il l'a fait. Et le garçon est un grand manipulateur, hein. Il faut être très clair.
Manipulateur,
c'est quelqu'un qui sait très, très bien jouer avec les limites. C'est un troll de première catégorie, donc il sait très, très bien jouer sur les lignes et on va dire faire du deux bandes, du trois bandes. Et moi, je me demande, quand il a fait ça, s'il n'a pas fait ça justement pour se mettre un peu en opposition et faire en sorte de, quelque part, d'aller au clash, et en se disant ce qui est sa technique, hein. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, hein. C'est en gros ça passe ou ça casse, et globalement c'est moi le chef. Et donc comme c'est pas le genre de mec à mon avis qui aime négocier, il a commencé à sortir les fameux dossiers de il y a que des bots sur Twitter, enfin il y a beaucoup de bots, on a minimisé le nombre de bots sur la plateforme et ainsi de suite. Alors certains ont dit qu'en fait il voulait se désengager et que donc c'était un moyen pour lui de trouver une faille dans le contrat et donc quelque part faire en sorte de ne pas payer. Moi je pense que c'était plutôt un moyen d'asseoir ou de mettre ses griffes, vraiment d'asseoir sa suprématie pour faire en sorte ensuite de virer tout le monde, quelque chose comme ça.
Parce que dans la chronologie, il fait d'abord une première offre à 43 milliards de dollars. Là, Twitter va utiliser ce qu'on appelle dans la Silicon Valley the red pill. Grosso modo, c'est une sorte de contre-offensive pour résister à l'offre de Musk. Puis finalement, ils vont accepter l'offre à 43 milliards de dollars. On pense que l'affaire est pliée. Il commence ses due diligence, c'est-à-dire en gros, il regarde qu'est-ce qu'il est en train de racheter de l'intérieur. Là, il se plaint que Twitter lui file pas toutes les informations. Et puis là, il commence effectivement à agiter l'histoire des spam bots, comme quoi en fait... il y a beaucoup des utilisateurs de Twitter qui sont des robots. Et il dit, ah bah non, bah finalement, j'achète plus. Ça, c'était en juillet 2022. Il achète plus. Alors là, patatras, tout le monde se dit merde. Je pense que les actionnaires de Twitter aussi se sont dit fait chier parce que eux, ils seraient bien contents de sortir parce que ça fait un bout de temps qu'ils sont dans la boîte et que la boîte, on le rappelle, elle gagne pas d'argent. Hein,
elle gagne pas d'argent et elle est endettée. Donc, ils se disent ça peut être une sortie tout à fait honorable vu le prix.
Et là, là où elle a été très fort, hein, Twitter, c'est qu'il a dit non, non, mais on va te faire un procès. On va te faire un procès pour rupture du contrat qu'on avait signé ensemble de revente, en fait, de Twitter. Et je pense que là, il a eu le procès, on a dit que le procès allait lui coûter des milliards de dédommagement. Et ben c'est le 27 octobre finalement Musk annonce que il accepte de racheter Twitter. Alors c'est plus 43 milliards, c'est 44 milliards. Ouais, c'est les 1 milliard du prix du procès quoi qu'il a rajouté dans le truc.
Ouais, c'est ça.
Une impression quoi. Et Musk devient de fait à partir du 27 octobre le CEO de Twitter. Il se pointe au siège de Twitter avec un lavabo.
Oui. Ça, tu peux peut-être l'expliquer, il y a quand même un jeu de mots sur l'histoire.
Alors oui, parce qu'en fait, il se pointe, il fait une vidéo qui est devenue très virale. La phrase était « let this sink in ».
Sink it, c'est ça.
Voilà, donc grosso modo, il y a un jeu de mots entre « sink » qui veut dire « lavabo », mais qui veut aussi dire « s'écrouler », quoi, en fait, quoi. C'est-à-dire, comment on dit en français, quand un navire chavire, quoi, en fait, mais pas chavire, mais il sombre, quoi, cool, grosso modo. Il coule, voilà, exactement, je cherchais le terme. Donc voilà, donc en gros, il y a un jeu de mots entre « lavabo » et le fait de, le verbe de « couler », quoi, en fait, quelque chose. Donc on sent que le mec vient avec l'intention de faire couler le truc, quoi, en fait, c'est-à-dire de foutre la merde, quoi, ça c'est évident. Et là, on retrouve encore le côté super provocateur de Musk.
Troll, à fond, le totalement troll de Trump. C'est intéressant.
Oui, lapsus révélateur, c'est les mêmes.
Pas de leur même. Voilà, ils sont trolls un peu tous les deux. Ils sont clairement trolls les deux. Mais oui, c'est un moyen aussi de marquer. Il y a aussi le côté où il s'est rebaptisé Chief Tweet. Mais avec un jeu de mots sur tweet, puisqu'il y avait le côté chief tweet au sens chef de Twitter, et puis chief tweet au sens chef des crétins, si je dis pas de bêtises.
Exactement.
Donc oui, clairement, il vient jouer la carte de la provoque. La question à laquelle on n'aura jamais de réponse finalement, c'est que est-ce qu'il a voulu en fait secouer le cocotier? Il a voulu jouer, mais en fait, finalement, cette histoire de procès, bah, finalement, ça l'a mis dedans. Et si on y est, j'y suis, quoi, hein, il y va. Ou est-ce qu'il y a véritablement une envie d'acheter le truc? Je sais pas, mais on saura jamais vraiment si finalement c'était un vrai mariage ou si il était un peu à contre-cœur.
Non, on saura pas, mais ouais, je pense qu'il a envie. Hein. Je pense qu'il c'est pas le genre de mec, les gens disent « ouais, mais 44 milliards, c'est pas grand-chose pour lui ». Faut pas exagérer non plus. Hein. C'est quand même beaucoup d'argent. Et puis, je pense qu'il a une vraie amour, hein, en fait, pour la plateforme Twitter. Hein. Il lui vaut. Et je pense qu'il a vraiment envie d'en faire quelque chose et que Musk pensait, à raison d'ailleurs, que la vision que lui il avait pour Twitter, jamais le comité de direction de Twitter et les actionnaires de Twitter l'auraient mise en œuvre. Donc, s'il ne rachetait pas le réseau, sa vision n'aurait jamais existé. D'ailleurs, quand il arrive. Et il va virer tout le comité de direction. Il va mettre à la porte Parag Agrawal, qui était le CEO de Twitter. Et il dégage tout le monde. Et on a vu ces images, ces vidéos des mecs qui sortaient comme à l'américaine avec leurs petits cartons le soir et qui avaient rembarqué leurs affaires et qui, en 20 minutes, avaient été virés. Hein. Ça, c'est bienvenue dans la Silicon Valley. Alors depuis, la Silicon Valley est divisée en deux camps. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est assez révélateur de la polarisation politique même des États-Unis. On a d'un côté les conservateurs, les libertariens et les républicains qui ont plutôt largement salué le rachat de Twitter. Et de l'autre côté, les libéraux, les progressistes, les démocrates et puis les employés d'ailleurs. C'est marrant comme quoi là, tout d'un coup... le salariat se met du côté des libéraux et des démocrates, qui, eux, ont exprimé plutôt des inquiétudes et des doutes quant aux intentions de Musk. Donc là, vraiment, on a un... Bon, alors après, c'est clair, la Silicon Valley est très progressiste, hein, donc elle est plutôt du côté... les libertariens, ils sont pas en majorité dans la Silicon Valley. Donc je dirais que la Silicon Valley est plutôt du côté des salariés et s'interroge énormément sur les intentions de Musk. Comment ça se passe en France d'ailleurs? Quel est le point de vue, l'opinion en France, c'est quoi? C'est l'accueil a été ouais, c'est génial que Musk reprenne Twitter, ou alors oulala, ça va être le mec est dangereux.
Si tu veux, alors bon, la France, hein, Twitter, très souvent, on se rend compte déjà en premier lieu que c'est plutôt pas que, mais une communauté, beaucoup de communicants, de journalistes et de politiques.
Bon. Ouais.
Donc aujourd'hui, il y a ceux qui parlent beaucoup de la plateforme et de ces éléments-là, c'est plutôt des gens qui sont soit des vieux comme moi, des vieux de la vieille de la plateforme. J'ai regardé août 2007 quand même. Hein, comme,
ouais, ouais. Moi, je pareil, 2007, je sais pas, je crois que c'était...
Donc, plus de 15 ans. Donc, soit des gens comme nous qui nous demandons mais qu'est-ce qui va se passer de la plateforme, parce qu'on n'a pas envie que notre jouet soit cassé, parce qu'on l'aime bien ce jouet. Et puis, beaucoup de journalistes qui se posent des questions sur l'aspect liberté de parole. Est-ce que, typiquement en France, est-ce que ce serait le retour de certains médias qui ont été virés? Je pense à RT News, par exemple. Mmh. Donc, beaucoup de journalistes, en fait, se posent des questions sur l'aspect plutôt liberté, modération.
Modération des contenus.
C'est l'angle de modération. Les politiques, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu, très honnêtement. Hein. Et puis le reste, attend de voir. Donc, je pense qu'il y a un peu cette question-là qui se joue. Après, Twitter en France tel quel, le bureau de Twitter à Paris, c'est pas beaucoup, hein, c'est 50 personnes, hein, c'est pas énorme.
Hein. Enfin, tu as vérifié là parce que je pense qu'ils sont encore moins là aujourd'hui. Hein, mais
je pense qu'ils sont moins. Je suis pas retourné les voir, mais si tu veux, c'est il y a cette question là. Le truc, si tu veux, c'est je pense que dans tous les cas de figure aujourd'hui, comme beaucoup, la question c'est quoi la vraie personnalité de Musk.
On va en parler.
Le type a l'air. La question, c'est est-ce que le mec est incontrôlable ou est-ce que le mec est, on va dire, un troll contrôlable? C'est ça la question.
C'est une bonne question. Alors, tu le disais, combien il y a de mecs chez Twitter en France aujourd'hui, on n'en sait rien, parce qu'il y a une vague de licenciements, mais absolument massive. Ils prévoient de réduire les effectifs de l'entreprise d'environ 50%. Donc, Twitter dans le monde, hein, c'est à peu près quoi? 8000 personnes?
C'est ça, 7005,
voilà. Donc, lui, il a dit, hein, les documents qu'on fuitait, le plan, c'est de dégager 50% des effectifs, ce qui est colossal, hein. Et tout d'un coup, en quelques jours, les salariés se sont retrouvés déconnectés de leur ordinateur, mais les mecs en réunion, hein, c'est-à-dire que les mecs étaient en salle de réunion en train d'écrire, etc. Et t'as des équipes qui sont arrivées, et ça, c'est très à l'américaine. Je suppose que ça s'est pas passé comme ça en France, mais aux États-Unis, les mecs sont arrivés dans la salle avec un monsieur bien musclé derrière, quoi, et lui ont pris leur ordinateur en lui disant, bah voilà, je suis désolé. Tu fais plus partie de la société, quoi. Donc, et puis d'autres se sont réveillés, ils ont été informés et chacun attendait quelque part un mail qu'ils ont reçu le matin. En gros, soit tu recevais le mail, soit tu recevais pas le mail.
Ah non, exactement, c'est pas ça. C'est soit tu recevais le mail sur ton adresse pro.
Ouais, c'est ça.
Soit tu recevais ton mail sur l'adresse perso. Donc, si c'était pro, ça voulait dire que tu restais. C'est le maillon faible. Si tu recevais le mail sur l'adresse perso, ça voulait dire que, ben, t'as plus d'adresse pro. Donc, au revoir.
Et au revoir, au revoir. C'est-à-dire que là, tous tes comptes sont déconnectés. Tu ne fais plus partie de la boîte du jour au lendemain. Donc, les gens se sont réveillés le matin, ont checké leur mail. Et là, c'était la surprise, quoi. Grosso modo, c'était du style, c'est un Kinder Surprise, là. C'est-à-dire que tout bluffe et puis là, tu regardes ce qu'il y a dedans, quoi, en fait. Bon, après, la Silicon Valley, elle est habituée à ce genre de licenciement, hein. Mais là, quand même, la brutalité avec laquelle ça a été fait, on s'est viré dans la Silicon Valley, mais là, ça a été vraiment ultra brutal. Et même ça a surpris et choqué la Silicon Valley. Alors, j'imagine même pas en France, si tu fais un truc comme ça. Mais même dans la Silicon Valley, les gens ont été choqués.
Alors, il me semble, on en discutait dans l'Hacienda. Donc, si vous voulez rejoindre l'Hacienda, achetez le NFT.
Ouais, c'est la communauté des fans. Et là, alors, il y a des débats. Il y a eu un gros débat.
Des grands débats. Et tu nous as dit, toi qui es dans la Silicon Valley, quand même, il y avait quand même une stratégie de la part des boîtes en général de virer les gens au moment du mois de novembre. C'est ça, hein. C'est parce qu'en fait, il y a les budgets qui se préparent. Donc, en gros, tu baisses tes budgets en virant des gens.
Oui, mais les startups dans la Silicon Valley, il y a un playbook, hein. Et grosso modo, licenciement massif, page 268 du playbook de la Silicon Valley. Non, mais pratiquement, la formule, la recette, c'est un livre de recettes, hein, la Silicon Valley pour les startups. Bah, ça, c'est, y a une page, hein, là-dessus. Donc, souvent, les startups de la Silicon Valley font des charrettes au mois de novembre. Pourquoi? Parce que les budgets sont, pour l'année prochaine, sont votés et communiqués au marché au mois de novembre. Le préavis de départ dans la Silicon Valley est plutôt court. Il est généralement au minimum de 2 semaines. C'est-à-dire qu'en gros, je continue à te payer pendant 2 semaines. Dans les grosses boîtes comme Facebook, Twitter, Google, etc., généralement, c'est des préavis un peu plus longs. Ça peut aller même jusqu'à 2 mois. Donc, tu comprends pourquoi novembre.
Il n'y a pas une histoire de lorsque tu fais des gros volumes de licenciements, tu n'as pas une 60 jours, je crois, tu dois...
Comme un plan social, quoi, en fait. C'est-à-dire que tu as des mécanismes administratifs et comptables qui sont différents selon ces choses-là. Donc, c'est pas étonnant que les licenciements aient lieu en novembre. D'ailleurs, regarde, en ce moment, tout le monde s'est engouffré dans la brèche. C'est-à-dire que tout le monde annonce des départs dans la Silicon Valley. Donc là, on a une énorme charrette. Ce qui est aussi une stratégie de communication pour les startups de la Silicon Valley. Parce que si je suis tout seul à virer, bien évidemment, le Washington Post et le New York Times va faire un article que sur moi en disant que ma boîte va mal. Alors que quand il y a une boîte comme Twitter qui commence à faire du dégraissage, et je me mets dans la charrette, je me mets dans le train avec tout le monde. Et en fait, c'est pas de ma faute, c'est la conjoncture. Donc, grosso modo, il y a toujours un article dans le Washington Post et dans le New York Times, mais il parle pas que de moi, il parle de nous tous. Donc, grosso modo, je me cache derrière les autres. Et ça, c'est aussi une stratégie de communication pour les startups de la Silicon Valley. Donc là, je pense que tout au long du mois de novembre, on va avoir tout un tas d'annonces de licenciements. On enregistre cette émission le 9 novembre. C'est le jour où d'ailleurs Facebook a prévu d'annoncer ses licenciements. Ça n'est jamais arrivé depuis 10 ans. Hein, Facebook qui annonce des licenciements massifs. Il se passe quelque chose, hein, clairement.
Très clairement, oui. Alors après, d'un autre côté, ils virent du monde. C'est peut-être histoire de me lancer un signal aussi. C'est en fait le côté, c'est moi le boss. Et il faut mettre... En fait, c'est le côté, la technique de l'électrochoc. C'est en clair, la boîte va mal. Donc, je montre que j'ai la capacité de virer des gens, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur, je vire les gens. En plus, Musk est connu pour être de ce point de vue-là. Alors là, je parle d'un point de vue strictement, on va dire, je prends le terme au sens propre du terme, un sociopathe, au sens qui n'a pas de ressenti humain. De film, il s'en fout complet. Je sais pas s'il y a une histoire comme ça que j'ai lu très, très rapidement. La fois où il a viré, c'est dans un bouquin sur Musk, où il a viré son assistante qu'il suivait depuis 12 ans et qui dormait pas comme lui, tu vois, qui faisait tout, absolument tout. Et la nana, un jour, elle a dit, j'aimerais bien monter un peu en grade. Et il lui a dit, prendre 2 semaines de vacances. Et quand elle est revenue, elle était remplacée. Donc, chacun, l'histoire diffère de derrière. Hein, mais globalement, le type s'en fout. Voilà, je vais être très clair. Et donc, c'est un peu un moyen aussi, quelque part, de faire régner la terreur quand tu fais ça.
Tu sais, il y a une phrase dans Game of Thrones, dernier épisode de Game of Thrones, où je crois que c'est Littlefinger qui dit « Chaos is a ladder ». Le chaos est une échelle. C'est-à-dire que... et je pense que Musk est complètement dans cette stratégie-là. Il crée du chaos parce que, en fait, c'est comme en physique. Si tu veux faire bouger des molécules, il faut de la chaleur. Si je prends un glaçon, les molécules, elles sont figées. La société, d'ailleurs, la société française, c'est un glaçon. Les molécules sont figées, les gens sont toujours à la même place et ne bougent pas, et elle est figée. La seule façon de faire bouger les molécules et les atomes dans un glaçon, bah, c'est de créer de la chaleur, donc de chaos. Et c'est comme ça que les molécules bougent, elles changent de place. Il y en a qui se cassent la gueule, il y en a d'autres qui s'élèvent sous le phénomène de l'évaporation, etc., etc. Et je pense qu'effectivement, tu as raison, sa stratégie, c'est de créer du chaos parce que, non pas pour foutre la merde, mais pour changer les choses, clairement.
Ça a deux avantages. Enfin, c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que tu bouges les lignes. Ouais. Finalement, c'est ça, hein, l'idée. C'est qu'en Exactement. Fait, tu fous le chaos, tu pètes les cloisons et quelque part, tu dis, ben voilà, on va changer les choses. Ça peut être bien. Mais de l'autre côté, tu crées la terreur. Donc, la terreur, ça fait quoi? Ça crée... tu gardes pas forcément les bons. Ou ceux qui restent ont peur. Et ils vont pas forcément te dire ce qu'ils ont à te dire. Enfin, d'autre côté, après, est-ce que tu as envie de dire ce que tu penses à Musk?
Est-ce que tu as envie de les entendre? Et puis, est-ce que Musk a envie d'entendre ces gens?
C'est ça. Est-ce que Musk a envie d'entendre? Je suis même pas sûr. J'en suis même sûr. Il a pas envie. Donc, très clairement, tu crées une sorte de terreur. Mais à la fois, tu te dis, bon, voilà, la règle du jeu, elle est super claire. C'est si tu fais ce qu'on te dit de faire, a priori, ça se passera bien. Et encore, on n'est pas sûr. Mais on verra bien. Donc, ça peut être quand même. Enfin, je veux dire, la ligne de crête, elle est très, très fine. Hein. C'est entre, justement, ce que tu disais, le côté, on va dire, destruction créatrice, le côté on bouge les lignes, on bouge tout, et puis de l'autre côté, les gens qui se disent, enfin, qui vivent dans la terreur et qui travaillent la boule au ventre. Je suis pas sûr que ce soit une bonne manière de faire, quoi.
D'ailleurs, à ce sujet sur la terreur, je vous l'annonce, les licenciements sont pas terminés, parce que dans le playbook de la Silicon Valley dont je parle, tu fais une première charrette en novembre, tu crées un sentiment, un choc, et un sentiment de terreur, les gens se retrouvent avec beaucoup plus de travail qu'ils n'en avaient avant. Et l'objectif de cette vague, de ce premier choc, c'est de faire en sorte d'avoir des départs naturels dans les mois qui viennent. Ça, donc en gros, là, voilà. Et si les départs naturels n'ont pas lieu, tu vas voir une nouvelle vague, une nouvelle charrette se passer en février-mars. C'est comme ça, c'est écrit comme ça dans la série. Pourquoi ? Parce qu'avant les fins, avant la communication des résultats, fin du premier trimestre. Donc moi, je vous l'annonce, soit les mecs se barrent, comme tu dis, sous l'effet du choc et de la terreur d'ici la fin du premier trimestre, sinon on va avoir une nouvelle vague en février-mars de licenciements. Moi, je ne serais pas étonnant que Twitter se retrouve avec 2 ou 3 000 salariés en mars de l'année prochaine.
Mais ce qui veut dire aussi, peut-être, que ceux qui vont rester sont peut-être les plus solides. Peut-être pas les meilleurs, mais au moins les plus solides. Je sais pas, ça peut être ça.
Le style Musk, Damien, tu en parles, il est pas nouveau. Le mec, c'est pas un enfant de cœur. La façon dont il gère déjà ses équipes chez Tesla, moi j'ai des copains qui ont bossé chez Tesla, ils m'ont dit c'est une horreur, le mec t'envoie un SMS à 3h du matin, il attend que tu lui répondes immédiatement et si tu lui réponds pas, tu te fais engueuler le lendemain matin à 7h parce que t'as pas répondu à son SMS à 3h du mat, quoi, parce que lui, il dort pas. Mais en gros, on est d'accord, le style Musk, c'est tu fermes ta gueule, tu bosses 90 heures par semaine, et si t'es pas content, tu te barres, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Ça fonctionne comme ça chez Tesla, ça fonctionne comme ça chez SpaceX, et ça fonctionne comme, ça va fonctionner comme ça chez Twitter. Et les mecs sont pas habitués à ça chez Twitter, hein, parce que c'était un peu...
Oui, parce que Twitter, il y avait un petit côté, pour revenir à ce qu'on disait sur Jack Dorsey, un côté un peu hippiesque, il y avait un côté, effectivement, un peu, j'ai pas dire, envie de dire à la cool. Il y avait une ambiance qui pouvait être intéressante, hein, de ce que j'en ai vu. Hein, j'ai vu des commentaires de certains salariés qui disaient qu'en gros, il y avait un côté bienveillant, c'était plutôt agréable de travailler chez Twitter, etc. Et que tout ça, c'est un peu fini. Autre élément, Elon Musk joue le côté exemplaire. Parce que tu peux avoir des patrons qui jouent la terreur, mais les mecs, ils rentrent à 19h chez eux, puis ils t'envoient des SMS, puis toi, tu te démerdes derrière. Musk, il est du style, comme il l'a fait chez Tesla, à dormir 3 mois sur la chaîne de montage.
Ah oui, oui, non, mais clair.
Il prend sa petite tente quelque
part. Dans un sac de
voilà, et il se met dedans. Le mec est suffisamment fou et jusqu'au boutiste pour faire ça, ce qui pour certains peut être vu comme une vertu de courage ou une vertu de capitaine d'industrie. Et puis le mec va te dire, hey, oh, t'as vu, moi je fais ça. Bon, alors après, tout le monde ne gagne pas l'argent que lui il gagne. Mais quelque part, il y a ce côté-là qui fait que ça crée aussi la légende. Cette légende qui fait, qui crée cette aura autour de lui, qui fait que tu dis, ouais, c'est un connard. Mais en fait, c'est un connard qui s'implique. Donc, bon.
Oui, et puis, avouons-le, Damien, entre nous, Twitter, c'est quand même une boîte qui avait besoin d'un sacré gros coup de pied au cul.
Ah, il y a ça aussi.
Parce que quand on regarde le produit, il n'a vraiment pas évolué depuis 2013. Il ne s'est pas passé grand-chose, à l'exception peut-être de Twitter Spaces, qui est plutôt une réussite. Sur un plan de la compétition, Twitter s'est fait complètement manger par Instagram en termes de produits. Et il a démontré qu'il était vraiment trop lent et incapable de rivaliser avec ses concurrents Instagram, TikTok, etc. C'est un produit qui n'a pas beaucoup évolué.
Et puis c'est pire que ça. C'est que Twitter n'a jamais réussi à développer d'autres produits. C'est-à-dire, quand tu prends les deux produits phares qui étaient rattachés à Twitter, qu'ils avaient racheté, Vine et Periscope. Periscope a été ingéré. Ils l'ont intégré, on va dire, d'un point de vue technique. Mais il y avait une vraie communauté autour de Periscope.
Qu'ils ont tué.
Et ils l'ont tué, très clairement. Il y avait une vraie communauté, ils l'ont tué. Mais on va dire que, allez, admettons, on va dire que le live a peut-être pas eu le succès que Facebook, Twitter ou autre en attendait. En revanche, Twitter a inventé TikTok. Et ça s'appelait Vine. Mais ça, personne s'en rappelle.
Mais d'ailleurs, ça fait partie hein, des projets prioritaires de Musk. Hein. Il y a les comptes vérifiés qui vont devenir payants. Il a fait la refonte de la section Explore, qui n'est pas forcément une réussite. Et il semblerait que dans les cartons, il y ait l'envie de faire renaître de ses cendres Vine, qui effectivement est le meilleur outil de concurrence pour concurrencer TikTok, qui aujourd'hui prend des parts de marché absolument colossales.
Vine, pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est vraiment TikTok avant l'heure, peut-être trop en avance. C'était ouais. L'idée, c'était de faire des tweets vidéo, donc 6 secondes. 6 secondes en vidéo. Alors, c'est super court, 6 secondes. Mais il y avait une communauté et de la créativité, parce que de la contrainte naît la créativité et l'idée.
Bien sûr.
Et donc, les 6 secondes, il y a des gens extraordinaires qui ont créé des trucs géniaux, qui très souvent, d'ailleurs, sont partis après ailleurs. Ils sont partis sur Insta, on les retrouve aujourd'hui sur TikTok.
Bien sûr.
Donc, il y avait une vraie communauté, mais qui a été tuée. Pourquoi à l'époque? Parce que Twitter, déjà, n'allait pas bien et que, alors, ça peut être logique, à l'époque, Dorsey avait dit, bon, on peut pas éparpiller nos forces partout. Déjà, Twitter lui-même a du mal à évoluer. Donc, si en plus on dépense de l'énergie à développer d'autres produits à côté, on n'y arrive plus. Donc, ils ont rassemblé l'effort sur le produit. Alors, peut-être que, à l'instar, je vais parler aux plus de quarantenaires, à l'instar de la 205 qui a sauvé Peugeot à l'époque, là, je parle aux Français vraiment, ils ont tout mis dessus. Là, ils ont tout misé sur Twitter. C'est peut-être ce qui a sauvé Twitter. Mais n'empêche qu'ils ont tué quelque chose qui aujourd'hui pourrait être une sorte de TikTok. Donc c'est assez intéressant de voir aussi quand même qui veut relancer ce truc-là.
Le style Musk, moi j'ai quelques infos de l'intérieur et qui sont disponibles online, que vous pouvez retrouver, mais il y a quand même il a demandé aux développeurs d'imprimer les 50 pages de code qu'ils ont écrit lors des 30 derniers jours et de les lui montrer. Et donc grosso modo, c'était l'heure de rendre les copies, c'est-à-dire que chaque développeur allait voir Musk en lui disant ben voilà ce que j'ai écrit, et sur la base de ce qu'il voyait il décidait s'il les gardait ou s'il les gardait pas. C'est assez hallucinant.
Alors la légende dit que c'est Musk il a fait venir des ingés de Tesla pour lire, pour regarder aussi feuilles, parce qu'il n'est pas non plus un super codeur, même s'il a quand même des rudiments, mais il a fait venir des gens de chez Tesla pour regarder. Alors après, est-ce que c'est une bonne manière de faire?
C'est au poids, c'est ça,
c'est au poids, ouais. bon, si la fait venir qu'il y a des gens de Tesla, je pense qu'ils ont regardé la qualité du code. Après, à nouveau, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un côté très c'est moi le boss, je suis le chef, je suis le prof, quelque part. Et donc, on va regarder ce que tu fais vraiment. Alors, à nouveau, il y a ce côté je soulève le capot et je suis le boss et j'ai envie de savoir ce qui se passe. Ça peut être pas mal, mais il y a aussi un côté très il faut que tu sois un féodé à moi, parce que tu comprends, moi j'ai la liberté de te demander de regarder ce que tu fais dans le code, et si c'est nul, je te vire.
C'est sa phrase favorite, hein, what have you done this week, hein. C'est son message favori, c'est-à-dire quand quelqu'un le fait chier, il pose la question, qu'est-ce que t'as fait cette semaine.
Bah après t'en connais d'autres des comme ça, hein. Steve Jobs, le classique, tu le croises dans l'ascenseur, vous faites quoi pour cette société, si t'étais pas foutu de répondre à une phrase très précisément ce que tu faisais pour Apple, tu pouvais
vous
faire
le virer. Ouais. Ouais,
et absolument. C'est vrai.
Bon, aujourd'hui, les salariés sont en mode brouillard, hein. Il n'y a pas beaucoup de communication, pas beaucoup de son et d'image. Là, on enregistre, on est le 9 novembre. Bon, il y a eu un courrier qui a été envoyé à tout le monde. D'ailleurs, il n'a pas été signé, ce courrier-là. Donc, c'est assez drôle de voir ça. Et puis, c'est un peu le jeu des chaises musicales. Il y a des nouvelles figures qui commencent à arriver chez Twitter. On a vu Musk en compagnie de Jason Calacanis, qui est un investisseur et un podcasteur. David Sachs aussi, qui était le fondateur de Yammer, on se rappelle, et qui aussi est un gros investisseur et bien connu dans la Silicon Valley. Et on a l'impression qu'ils sont un peu les conseillers de Musk. Ils ont ce podcast, hein, que je vous invite vraiment à écouter. Je ne me rappelle plus du nom. Bon, je le mettrai dans les notes, justement.
Achetez le NFT, vous aurez le nom dans les
voilà,
notes.
Exactement.
Il y a moyen de savoir.
Oui. Il y a moyen de savoir. Mais bon, voilà, c'est un peu le brouillard chez Twitter.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder le profil des gens qu'il a pris.
Ouais.
Alors, que des mecs, déjà. Ça vaut ce que ça vaut, mais que des mecs. Deuxième élément, le profil des mecs. Alors, Jason Calacanis, il n'y a pas plus toxique comme mec chez Uber.
Ouais.
Mais par contre, dans le côté brutal et qui est capable
de t'imposer sur... Ouais, c'est
oui,
ça.
En fait, c'est un mec brutal qui s'impose sur un marché par tous les moyens.
Ouais.
Voilà.
C'est comme Louis de Funès qui dit à Bourville dans... La Grande Vadrouille.
La Grande Vadrouille, ouais.
Et il lui dit, vous chaussez du combien? Du comme moi, quoi, en fait.
C'est ça, exactement.
Du comme toi. Du comme vous.
C'est
voilà.
Ça, du comme vous, ouais, c'est
du
ça,
comme
c'est
vous. Et donc là, il a pris du comme moi, quoi, en fait. C'est ça.
Voilà. Donc, t'as Calacanis, effectivement, très violent. Tu as aussi David Sachs, effectivement. C'est pas non plus, il est pas non plus connu pour.
Ah,
pour
et puis alors, voilà. Libertarien total, c'est un républicain, hein. C'est clair.
Voilà.
Hein.
C'est deux, les deux
hein.
Cités sont des libertariens, des républicains purs et durs. Puis tu as aussi Alex Spiro.
Ouais.
Alex Spiro, qui est l'avocat. Parce qu'un avocat, il en a bien besoin, parce que tout terrain, parce que comme il tweet plus vite que son nom, bon, si tu veux, il faut arriver à suivre derrière. Mais voilà, donc il s'est entouré de gens qui sont comme lui, quelque part. C'est en gros des gens qui, politiquement, sont du même bord, qui ont cette même logique d'aller jusqu'au bout. Alors pareil, voilà, Calacanis, on peut pas dire. Le mec, il a monté un empire contre les taxis du monde entier, mais il y est allé à la serpe, quoi. Mais pareil, ce sont des gens qui n'ont pas de sentiments. Ils sont pas là pour ça.
Bon, allez, on va faire une petite pause parce qu'on va parler. Cette émission, elle va être longue. J'espère que vous avez encore des pop-corn. Allez faire le plein de pop-corn. Reprenez un soda ou un verre de rouge, comme vous voulez. Et on revient tout de suite pour la deuxième partie. On va parler de où est-ce qu'on va maintenant. Et on va faire un peu de prospective sur Twitter avec Damien Douani. Vous êtes dans Silicon Carnet. Cette semaine, on parle du chaos chez Twitter et je suis en compagnie de Damien Douani. C'est une émission un petit peu spéciale. J'ai pas l'habitude de commenter l'actualité, mais là, c'était les bras me tendaient. Il y a tellement de trucs à dire que j'avais envie de partager ce que je pensais de tout ça avec vous. Et je sais que Damien Douani est un éclaireur du numérique et j'avais envie de ses lumières. Et donc, je lui ai demandé de venir faire cette émission avec moi. Si vous appréciez cet épisode, bah, allez acheter le NFT de l'émission. On en a parlé. C'est une façon original de manifester votre intérêt et aussi de rejoindre la communauté des fans de Silicon Carnet. Et il y en a eu des débats sur Twitter dans la Hacienda. Et n'hésitez pas non plus à partager cet épisode à travers vos réseaux sociaux. Et je lis tous vos commentaires, que ce soit sur Twitter, Facebook ou LinkedIn. Allez, on continue. De quoi est-ce qu'on va parler? On va parler maintenant de à quoi est-ce qu'il faut s'attendre. Donc, Je vais t'interroger sur l'annonce qui a été faite, hein, c'est Twitter Blue à $8. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Damien? Ça veut dire qu'il va falloir mettre la main à la poche?
Parce que comme a dit Elon, tu as ce que tu payes. Voilà, c'est comme ça. Donc, par conséquent, maintenant, tu payes. C'est $8. Et il y a l'histoire de la petite coche bleue qui a fait.
Ouais, explique ça. C'est quoi cette histoire de coche bleue? Parce que ça trouve les gens. Moi, j'ai pas de compte vérifié sur Twitter. Et ça veut dire que pour $8, je vais pouvoir avoir un petit icône bleu à côté de mon nom, c'est ça?
Ouais, alors écoute, ça, oui, moi j'ai une petite coche bleue, mais...
Comment tu fais? Parce que moi je paye Twitter Blue pourtant, là. Pourquoi j'ai pas de coche bleue?
J'ai des passe-droits, je connais des gens, je ne sais pas.
Formidable.
Je ne sais plus, à une époque, on me l'avait mise parce que j'intervenais dans les médias, donc par conséquent, ils devaient considérer...
Moi je suis une merde, tu as une pelle en bois, quand même. Faut
savoir. Bref, à la base, le truc de cette coche bleue, elle est assez intéressante parce que sur les réseaux sociaux, les gens adorent les médailles en chocolat. Et donc, comme on adore les médailles en chocolat, cette histoire de petite coche que tu retrouves aussi sur Instagram ou sur Facebook ou ailleurs, hein, c'est le côté, tu sais, c'est l'aristocratie du réseau social. Parce qu'en fait, tu as été reconnu par on ne sait pas qui, mais tu as été reconnu. Donc, régulièrement, cette histoire de coche bleue, elle revenait sur la table parce qu'à chaque fois, c'était « Mais comment on fait pour l'avoir ?» Alors, à une époque, il y avait un formulaire, tu le remplissais. Et puis, il y avait des gens qui regardaient et qui, à la fin, te disaient « Bon, ben d'accord, vous avez le droit de l'avoir ou pas. » Bon. Aujourd'hui, il n'y a plus de possibilités. Et donc, lui, il s'est dit bah, « Je vais tout simplement monétiser un truc tout con qui s'appelle Lego. » Voilà. Et Lego, tu es prêt à payer pour Lego.
Cher.
Cher. Très cher. Donc, ce on appelle ça le tout à Lego.
C'est bon, ça. Le tout à Lego.
Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai, tu es prêt à payer quelque part, hein, 100 balles par an pour avoir cette petite coche bleue. Le problème de ça, c'est que ça pose des questions de modération. Parce que ça veut dire que n'importe qui est prêt à se payer cette petite coche bleue qui est censée quand même, on va dire, certifier certains comptes. Donc, par exemple, les comptes officiels, par exemple, de POTUS aux États-Unis ou autres, ils ont la coche bleue, ce qui veut dire qu'a priori, c'est des comptes officiels. Si tu n'as plus cette petite coche bleue que tu dois payer pour, donc c'est le principe de la médaille en chocolat, le problème, c'est que n'importe qui peut se revendiquer. Donc, tu as des boîtes qui vont faire du spam, du bot, de ce que tu veux, qui vont pouvoir l'acheter.
Au nom d'eux, alors que c'est faux. Ils ne sont pas ces gens-là, en fait. Mais comme ils ont payé...
Voilà.
Et alors d'ailleurs, pour la petite anecdote, depuis cette histoire, puisque cette nouvelle feature hein, payante, elle a été livrée le week-end dernier, tu as des utilisateurs qui ont testé cette nouvelle fonctionnalité et qui ont renommé leur compte en Elon Musk.
Il a pas aimé,
ils ont changé leur photo de profil, ils ont mis une photo du milliardaire... Et visiblement, ça n'a pas plu. C'est-à-dire qu'il s'est fait prendre, il s'est tiré un peu une balle dans le pied. Et d'ailleurs, il y a certains comptes qui ont été suspendus parce qu'il dit « Ouais, mais vous avez enfreint les règles. » Il a tweeté, d'ailleurs, Musk, « À l'avenir, tous les comptes Twitter qui se livrent à des usurpations d'identité sans préciser clairement qu'il s'agit de parodies seront définitivement suspendus. » Donc, la liberté d'expression, elle trouve ses limites.
La géométrie variable. Alors, tu sais, ça me fait penser à un truc. Je ne sais pas si vous suivez, il faut que vous suivez un compte qui s'appelle @L, comme la lettre L, Manu L. Ce type, c'est un développeur français. Qui est aux États-Unis, qui s'est fait virer.
Bien sûr.
Et en fait, ce type était officiellement le, enfin officieusement.
Bon, c'est Manu Cornet. C'est un des mecs que j'ai contacté pour venir parler dans cette émission. Salut Manu, si tu nous écoutes. Et il m'a dit non, c'est pas possible.
Et lui, c'est le chief cartooniste officieux de Twitter.
Ouais.
Et donc, il a fait plein de dessins sur Twitter. Et donc, justement, il y en a un que j'ai sous les yeux, là, que j'avais tweeté d'ailleurs, qui était qu'en français, ça donnait, tu vois, Musk qui parle et qui dit n'importe quel un salarié Twitter qui parle, qui se prononce contre notre politique de tolérance, d'absolute free speech, donc de possibilité de parler de n'importe quoi, sera immédiatement viré. Donc en fait, c'est tout le paradoxe de l'histoire, c'est qu'en fait le type défend le free speech, mais à la fois tu peux pas parler comme t'as envie, tu payes la coche bleue, mais tu te fais usurper, donc ça lui plaît pas. Donc c'est là où ça crée une condition de se dire, mais est-ce que le mec, il sait où il va? Est-ce qu'il a une vision de ce qu'il est en train de faire? Parce que tout le monde avait annoncé le bazar que ça allait être. Et là où je pense qu'il a sous-estimé un truc, c'est qu'il y a des trolls sur Twitter. Lui, c'est un troll, mais en fait Twitter,
c'est pas tout seul. Ouais.
C'est une putain de communauté de trolls.
C'est une armée de trolls.
Et Twitter, c'est en ce sens que j'adore Twitter. C'est pour ça que j'y suis encore 15 ans plus tard. C'est que Twitter, s'il y a bien un endroit où il y a des gens qui ont envie de venir t'en mettre une dans la figure, alors des fois de manière violente, mais des fois qui ont envie de te renvoyer à la figure certaines choses, avec des punchlines bien senties, c'est bien sur Twitter que ça se passe. Donc je pense qu'il va avoir un peu de mal, enfin du fil à retordre de certaines personnes. Et c'est en ce sens qu'on a l'impression que le gars, on se dit, mais est-ce qu'il a vraiment compris où est-ce qu'il mettait les pieds? Parce que le côté, alors il est revenu hein, sur les l'histoire de la coche, justement, en se rendant compte que c'était une connerie. Après, ils proposent pas que ça, hein, dans l'histoire des 8 dollars. Il y a aussi l'idée de dire, qui est pas idiote, si vous payez, vous aurez un service, on va dire, de réponse, de SAV, si on peut dire, de réponse des équipes plus rapides, vous aurez moins de
pubs. Des équipes, il n'y en a plus, donc ça va être compliqué,
oui,
quoi.
Voilà, oui, de toute façon, voilà. Vous aurez donc des réponses plus rapides, vous aurez moins de pubs. Enfin, tu vas me dire, déjà, les annonceurs, ils sont en train de partir, donc naturellement, il y a moins de pubs. Et puis, il disait un truc pas con. Il disait, ça vous permettra aussi de financer les créateurs. Alors après, il n'a pas détaillé le truc, mais ça, c'est pas idiot, parce que aujourd'hui, c'est des modèles qu'on voit typiquement sur YouTube, ou c'est des modèles qu'on voit sur TikTok, qui est un modèle de création. Et c'est vrai que sur Twitter, typiquement, c'est une des plateformes où les créateurs n'étaient pas spécialement, on va dire, financés. Donc ça, c'est pas idiot. Et puis, il y avait le côté aussi d'avoir des vidéos plus longues. Donc tout n'est pas idiot dans l'histoire des 8 dollars, mais c'est vrai qu'on a super focalisé sur ces histoires de coche bleue, parce que c'est de l'ego, quoi.
Ouais, et tu parlais des annonceurs, justement, là, il y a un vrai problème, parce que là, les annonceurs, ils grognent, hein, et on sent que Musk est inquiet, justement, face aux réactions plutôt négatives de la part des annonceurs. Il a eu une réunion avec le Twitter Influence Council, qui, en gros, est une sorte de board avec les principaux annonceurs de Twitter. Et selon un participant à la réunion, il répond aux questions sur sa vision de Twitter, et aux rumeurs de réduction des effectifs. Donc, il a été interrogé là-dessus. Il y a des inquiétudes de la part des annonceurs. Et il a expliqué que, grosso modo, il y avait trop de monde chez Twitter. Mais il a essayé de rassurer ces annonceurs en leur disant que l'équipe de modération du contenu n'avait pas été supprimée. Et que, en gros, on sent bien qu'il a besoin quand même de ces annonceurs. Parce que... il a besoin du revenu et on sent que les annonceurs ne sont pas en train de répondre favorablement parce qu'il y a un dernier tweet de Twitter, lapsus encore révélateur, qui est Twitter, c'est Musk, qui a déclaré que l'entreprise a connu une chute massive de ses revenus depuis son arrivée. C'est-à-dire qu'en gros, les annonceurs sont en train de se barrer, Damien.
Alors écoute, on n'a pas... Moi, j'ai pas vu de liste de gens. Je sais que Stellantis, donc à l'heure où on enregistre, hein, Stellantis en France a annoncé qu'ils suspendaient toute leur campagne sur Twitter.
Donc là, Stellantis, c'est quoi ?
Stellantis, c'est le PSA plus Fiat plus Chrysler.
Ah d'accord, pardon, excuse-moi.
Donc c'est le gros groupe
c'est pareil.
Qui doit être numéro 2 ou numéro 3 mondial du nombre de voitures, constructeur auto, qui a annoncé suspendre ses opérations sur Twitter. Là, ils l'ont fait de manière officielle. Donc, c'est pas rien quand même, comme parce que les annonceurs automatiques, 1000 sont parmi les premiers annonceurs de la plateforme. Donc ça, c'est un signe non négligeable. Après, il est clair que c'est conservatoire, c'est histoire de voir un peu ce qui se passe. Donc, est-ce que ça va restreindre, on va dire, est-ce que ça va calmer un peu le garçon ? Je sais pas. Mais ce qui est évident, c'est que la plateforme Twitter a besoin d'argent, bien sûr, et a besoin d'annonceurs, sachant que déjà, de base, la mécanique de Twitter n'est pas faite pour gagner du fric. Déjà, à la grande différence de Facebook qui a été caréné, enfin, qui a été développé par la suite pour faire en sorte de gagner de l'argent, Twitter, à la base, a toujours eu des problèmes de modèle économique.
À l'inverse de Facebook ou Instagram, hein, qui se font des couilles en or sur la publicité, qui gèrent leurs annonceurs beaucoup mieux, Twitter, ils font péniblement 600 millions de dollars de chiffre d'affaires de publicité, ce qui est énorme, mais en même temps, comparé à ses concurrents, c'est nul.
Alors, il y a une raison pour ça, c'est que Facebook a été construit comme un CRM. En gros, tout est capitalisable, tu peux micro-cibler comme tu as envie, etc. Sur Twitter, comme à l'origine, c'était des échanges de SMS, eh bien, à part faire une IA qui serait hyper bonne pour arriver à analyser du sémantique, c'est le bordel. Donc, par conséquent, on essaye de coller aujourd'hui, si tu as la curiosité d'aller regarder ton profil et de voir les sujets qui te sont automatiquement associés. Des fois, c'est rigolo, parce que la plupart du temps, ils sont c'est à côté de la plaque. Mais ils ont essayé de faire des mécaniques comme ça de profil. C'est pas super, c'est pas trop mal, mais c'est pas extraordinaire. Donc, il y a un vrai problème de modèle en termes de performance. Là où ils ont été plus malins, c'est quand ils ont voulu monétiser l'API. Parce que l'API, comme Twitter est le seul réseau social public qui permet notamment de faire des études assez poussées, là, c'est intéressant parce qu'il y a un vrai truc pour monétiser.
D'ailleurs, il veut rendre ses API, c'est-à-dire l'accès aux data. Hein, c'est ça, les API, c'est lignes de code qui permettent d'accéder aux data. Il veut les rendre publics. Hein, c'est ça, c'est son grand truc. Hein. Et donc, toi, tu dis, il y a peut-être une manière aussi là de monétiser la data en rendant ces trucs publics et en créant De l'intelligence au sens américain du terme, c'est-à-dire de l'information à partir de cette data. Moi, je pense que Musk, il est en train de créer le chaos, mais en tout cas, la machine publicitaire de Twitter, il l'a cassée, et pour moi, de façon irrécupérable. Et je pense que ça, c'est à cause de sa personnalité. De la même façon, quand Trump a monté son réseau social, les annonceurs se sont pas rués. Pourtant, ils représentent une grande partie de gens aux États-Unis. Les annonceurs se sont pas rués sur Truth qu'en fait pour faire de la publicité. Là, je pense que la personnalité de Musk, elle est tellement polarisante que je pense que ça va être très très difficile de relancer la machine publicitaire.
Ah ben, c'est qu'en fait, il y a un principe de base en communication, notamment aux États-Unis, qui s'appelle la brand safety. Donc, autrement dit, ta marque, tu la vénères, tu la protèges. Et donc, il y a une zone de sécurité autour. Et typiquement, tout ce qui peut éventuellement venir perturber cette marque, tu t'en éloignes. Donc, comme tu le disais, il a une personnalité qui est polarisante. Donc, les marques vont se mettre en retrait et vont voir un peu ce qui va se passer. Donc, il y a certaines qui vont revenir, c'est évident. Et puis, je pense qu'il y en a d'autres qui vont véritablement ne pas revenir. Il y a un deuxième élément qui risque d'avoir avec lui, qui pour l'instant, je pense, sont restés un peu calmes, c'est tous les journalistes. Tous les médias qui justement ne vont pas aimer, on va dire qu'il y ait éventuellement de la censure ou autre, ou le free speech qui risque de lâcher les chevaux autour de tout ce qui est infox, fake news, il y a un vrai sujet qui va se passer autour de ça. Pour l'instant, c'est resté très calme, mais je pense qu'il va y avoir un sujet autour de ça. La vraie question que je me pose, c'est le modèle économique qu'il a envie de développer pour Twitter. Parce que c'est pas avec $8 par mois qu'il va arriver, même s'il y a 1% de la communauté qui paye. Twitter, c'est quoi? C'est 300 millions d'utilisateurs au global. Ouais. Donc bon, 1% qui paye $8, ça va pas chercher très loin. Moi, je pense qu'il y a un vrai modèle autour de la data. Et d'ailleurs, c'est une de mes hypothèses sur le fait qu'il ait racheté Twitter. Ce mec-là, c'est un mec qui a des boîtes qui bouffent de la data, Tesla, Neuralink, etc. Et donc, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que quelque part, il s'est pas dit aussi que c'était Twitter, c'était une sorte d'immense base de données, ouais, sur lequel il peut arriver à avoir une vision du monde et de ce que disent les gens, et peut-être d'arriver à appliquer des choses dessus, faire en gros d'aller récupérer de la data et faire en sorte de l'exploiter. C'est peut-être ça qui est derrière, en fond, en cherchant bien.
Mais tu mets le doigt sur le vrai problème de Twitter aujourd'hui et que Elon Musk est en train de découvrir. Twitter n'a pas de business model. Et lui, il n'en a jamais eu. Maintenant, il se retrouve aux commandes de ce machin. Il a mis beaucoup d'argent sur la table. Il a énormément endetté la société pour faire ce rachat. C'est pas que son argent. La société s'est elle-même endettée. Elle a plus de 13 milliards de dollars de dettes. Et donc, il est contraint d'augmenter le revenu de Twitter parce que l'entreprise va devoir payer sur ses 13 milliards de dettes 1 milliard de dollars par an uniquement d'intérêts.
Oui, le service de la dette.
Oui, voilà. Je ne parle même pas du remboursement de la dette. Je parle du paiement des intérêts, des emprunts qu'il a fait, dont Twitter a besoin pour faire marcher la plateforme. Et pour rappel, la société n'a réalisé que, entre guillemets, 632 millions de dollars. Donc, en gros, il faut qu'il trouve 380 millions de dollars juste pour couvrir les frais d'exploitation et les intérêts des emprunts. Donc, il y a un vrai putain de problème. Il est là, le problème. Et donc, on comprend que, bien évidemment, comment tu fais d'abord, tu coupes les coûts. Donc, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'il veut virer 50% des effectifs. C'est la première chose que tu fais. Et puis ensuite, il se pose la question du modèle économique. Donc, c'est pas étonnant qu'il amène des services payants. Je suis d'accord avec toi. $8. En plus, on peut se poser la question de savoir du prix, parce que il y a des calculs qui ont été faits qui ont démontré qu'en fait, ces $8 allaient coûter plus cher que $8 à Twitter lui-même. Donc là-dessus, je suis pas certain qu'il ait fait le bon calcul. Parce que, comme tu dis, ces $8 te permettent de voir moins de publicité. Donc du coup, ceux qui vont payer vont voir moins de publicité, donc moins de revenus publicitaires. Donc au final, la perte de ces revenus publicitaires ne sera pas compensée par les $8 que tu payes. Donc il y a un vrai problème de modèle économique. Et je rajoute dans la balance que là-dessus je fais confiance à Musk. Musk, il a compris un truc, c'est que ce que les gens veulent aujourd'hui, et TikTok en est la parfaite démonstration, c'est qu'ils veulent de la vidéo. Et c'est le format, et c'est un format qu'a toujours refusé Twitter jusqu'à présent. Oui. Et là, Musk, il se prépare. Pour moi, Twitter va devenir un sérieux concurrent de TikTok qui aujourd'hui est un peu sympathique pour les jeunes, machin nanana, mais qui en tout cas a imposé un format que les gens consomment et adorent. Et donc, je pense qu'on va avoir un TikTok sérieux, quoi, un peu plus formel. Et Twitter va devenir ce TikTok, et c'est pour ça qu'ils veulent faire revenir Vine. Et la vidéo, ça, c'est super monétisable.
Et justement, c'est là où on en revient, l'histoire de Vine et aussi de Periscope. Parce qu'à l'époque, on était tout à fait dans la ligne de qu'est-ce qui se passe dans le monde, et qui est complètement, on va dire, le positionnement de Twitter. C'est pour ça qu'ils avaient racheté Periscope, dans l'idée de se dire, vous faites un live n'importe quand et vous vous racontez ce que vous êtes en train de vivre. De manière un peu tragique, mais c'est comme ça que je m'étais rendu compte. Enfin, j'avais suivi l'histoire. Lorsqu'en France, on a eu les attentats et l'attaque, effectivement, de la salle de spectacle.
Bataclan,
merci. J'ai suivi l'actualité sur Periscope. En fait, j'ai vu des gens qui se filmaient, alors c'était très bizarre, parce qu'il y avait un petit côté voyeur, et à la fois, il n'y avait rien à la télévision, il n'y avait rien, il n'y avait personne qui en parlait. Donc c'était le seul moyen de savoir ce qui se passait, c'était de regarder sur Periscope des vidéos de gens en direct qui disaient, je suis dans le quartier, je suis en train de me cacher, ce qui se passe, etc., etc.
Et donc, et tu comprends là ce que tu es en train de dire, tout son discours sur le free speech, c'est qu'en fait, il nous met une dose de liberté d'expression, machin, etc., parce qu'il sait qu'il va devoir introduire la live vidéo, et qu'on ne pourra pas faire de modération, et donc il va mettre ça sous le second amendement, quoi, en fait, des États-Unis, en disant « Non, mais c'est du free speech !» Parce qu'il sait que par avance, s'il balance Vine avec de la live vidéo au format Periscope, cette modération, elle sera plus possible. Et d'où aussi l'inquiétude des annonceurs, qui se disent « Non, mais attends, je vais annoncer quoi ? Je vais mettre ma pub pour la nouvelle Peugeot sur un mec qui est en train de filmer, je ne sais pas, un attentat ?» C'est chaud quand même.
Alors, si ce n'est quand même que tu as des logiques obligatoires de modération. Enfin, en Europe, aujourd'hui, ça devient très fort, quand même, les questions de modération. Donc, il ne va pas pouvoir passer quand même au travers de ça. Donc, ça ne va peut-être pas être aussi simple que ça. Cependant, je te rejoins sur la vidéo. Oui, c'est un format que Twitter a toujours malmené ou a toujours maltraité. Et très clairement...
Pour des questions de modération, Pour des questions de modération, c'est plus facile de modérer du texte que de la vidéo.
Très clairement. Donc, il y a cette question-là qui va se jouer. C'est vrai que Twitter, son ADN, c'est qu'est-ce qui se passe à l'instant T. Et c'est vrai que la vidéo, aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de rendre compte de ce qui se passe. Mais comme tu le dis, la contrepartie de ça, c'est la modération. Donc, peut-être qu'aux États-Unis, à minima, il va nous mettre une dose il va jouer le côté free speech pour justement couvrir ce truc-là, cette notion-là.
Et en plus, il a un autre truc, c'est qu'il voit que Twitter Spaces, qui est pas de la vidéo, mais de l'audio live, marche plutôt bien. Okay. Oui. Donc, Twitter Spaces a mis en place chez les créateurs la logique, la routine de prendre la parole en live de façon audio. Donc, je pense que la vidéo va pas tarder à arriver derrière. Je pense qu'il faut s'attendre à ça, quoi, en fait. C'est vraiment le truc sur lequel Musk veut miser.
Très clairement. Ça peut être une piste, effectivement, ça peut être une piste de développement de la plateforme. Oui, très clairement.
Bon, on termine cette émission, Damien, avec une question. Tu l'as posée un petit peu tout à l'heure. Est-ce que Musk sait ce qu'il fait ? On peut se le demander. Parce que des managers ont commencé à demander à certains employés qui avaient été licenciés de revenir dans l'entreprise. Donc là, on se dit, mais c'est n'importe quoi, quoi. C'est-à-dire que on ne sait pas, d'ailleurs, combien d'employés ont été rappelés, mais il y a eu un article de Bloomberg qui rapporte que certaines personnes auraient été licenciées par erreur et que Musk ne se serait pas rendu compte que ces mecs-là étaient nécessaires pour... faire tourner la plateforme ou développer ses nouvelles fonctionnalités parce qu'il a besoin, la roadmap de Twitter, elle vient de prendre un sacré coup.
C'est le problème, si tu veux, quand tu fais de la terreur et que tu coupes des têtes, si tu veux, il y a des erreurs, ça arrive, c'est comme ça, c'est le pourcentage, tu sais. Cependant, moi, je me dis aussi que peut-être les mecs, ils n'avaient pas documenté tout ce qu'ils faisaient, donc ce qui fait qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont plus le mode d'emploi. Les gars sont partis, mais avec la legacy, quoi. Ils sont partis avec le savoir-faire. Et c'est très souvent le problème en entreprise.
Ouais.
Je sais qu'en Silicon Valley, c'est un vrai truc, c'est comme il y a une rotation assez forte, tu as cette notion de documentation qui est hyper importante parce que sinon, tu perds un vrai savoir-faire.
Donc pour toi, le code, il n'a pas été documenté, quoi, correctement. Donc on a rappelé les mecs pour documenter. Le code, c'est ça?
Sincèrement, ça ne m'étonnerait pas. Je pense que ça ne m'étonnerait pas. Après, un autre élément, pour revenir sur l'histoire du modèle économique et sur le fait de savoir ce qu'il fait, le mec n'est pas fou quand même. Je pense que le mec, il a quand même développé des belles boîtes. Je pense quand même que c'est aussi synonyme de quelque chose, de la fin de quelque chose. Et c'est notamment, à mon avis, la fin de l'Internet gratuit tel qu'on l'a connu et sur lequel, ce que j'appelle la gratuité marchande, sur lequel typiquement s'est construit Facebook. Donnez-moi vos données et je vous file un service gratuit. Facebook a viré de son fronton sa première page, c'est « Ce sera gratuit pour toujours ». Tu sais, la fameuse phrase était écrite. Ça a été viré, c'est fini. C'est marqué un service pour connecter les gens. Donc, si tu veux, très clairement aujourd'hui, YouTube qui passe en premium ou qui fait tout pour te faire passer en premium et qui te met plein de pubs pour que tu passes en premium. Twitter qui passe en version premium et ainsi de suite. Je pense que tous ces services-là, la logique même intrinsèque de
l'Internet web, gratuit, hein, c'est ça voilà,
et qui quelque part a été dévoyée au maximum par typiquement Facebook qui s'est dit bon ok c'est gratuit alors on fait comment on va exploiter la data jusqu'à on va dire à presser le citron tellement fort que au bout d'un moment on s'est mis à utiliser les données personnelles de manière enfin on va dire non loyale et qui fait qu'au final les gens commencent
avec
à dire
toutes les dérives qu'on connaît
toutes les donc quelque part les mecs disent ouais mais là j'ai pas envie de ça donc la réponse ça peut être de dire mais paye si tu payes t'es plus le produit c'est pas gratuit t'es plus le produit ce qui est pas con et c'est ce que dit Musk il dit tu payes pour ce que tu veux. Enfin, tu as ce que tu payes. Il l'a dit, il l'a écrit. Donc, c'est très, très clair.
C'est la stratégie de Apple, hein, quelque part. Hein. C'est Apple fait ça.
C'est la stratégie d'Apple qui te dit, tu payes plus cher, mais chez moi, tes données, elles sont en sécurité. Donc, très clairement, on revient vers une logique d'Internet gratuit qui, en fait, était une chimère quelque part un peu parce qu'à un moment il faut bien récupérer de l'argent quelque part hein. Il y a que Wikipédia qui marche qui est l'archétype de l'utopie webienne et il faut continuer de donner à Wikipédia c'est important
d'ailleurs ouais il faut que je le fasse tu m'y fais penser parce que je le fais tous les ans et là j'ai reçu un message et je l'ai supprimé et il faut que je m'en occupe
bah ouais mais moi j'ai donné donc c'est important de le faire mais quelque part c'est une des rares utopies véritablement du web les autres on est sur des modèles marchands donc à un moment il faut passer à la caisse ou il faut accepter autre chose.
Et je pense qu'on fait aussi avec ce podcast, hein. Tu écoutes, il est gratuit, tu peux l'écouter, il n'y a aucun problème.
C'est ce que le Web3 veut apporter, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est ce que le Web3, ce que tu creuses, c'est ce que le Web3 veut apporter comme mécanique additionnelle qui est de l'argent, mais pour les créateurs, en passant par une logique décentralisée. Voilà.
Oui, la grosse différence avec le Web3, c'est que cette monétisation, elle est directe. C'est-à-dire qu'elle ne passe pas par une plateforme. Le NFT que vous achetez, par exemple, de Silicon Carnet, il va directement dans ma poche et dans celui de la communauté et dans le compte de la communauté. C'est pas la plateforme Uncut qui me donne un cut, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que ça s'appelle Uncut, hein, d'ailleurs.
La question de fond, c'est est-ce que, jusqu'où, on va dire, Musk peut être quelque chose de bien pour Twitter versus, on va dire, quelque chose qui va être un repoussoir.
Mais je pense que la question que tu poses, elle est super intéressante, Damien. Parce que tu dis, est-ce que Musk peut être quelque chose de bien pour Twitter ? Tu manques d'ambition, Damien. Dans la tête d'Elon Musk, c'est qu'il se dit, je vais faire avec Twitter pour faire quelque chose de bien pour Internet.
Oui.
C'est-à-dire que Twitter n'est qu'un véhicule et il veut ouvrir une voie. Et je pense qu'il y a déjà des rumeurs pour renforcer ce que tu es en train de dire. On a vu des rumeurs sur Internet où il semblerait qu'il y ait des discussions chez Twitter pour faire payer tout le monde. Pas simplement les verified accounts, mais tous les utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a des rumeurs qui disent que tu vas pouvoir utiliser Twitter et au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Et si tu veux continuer à utiliser Twitter, ben, il va falloir payer.
Oui, en gros, tu as un crédit, un nombre de crédits. C'est ça. Après, non, c'est une logique comme ça. Après, il y a un autre élément, c'est qu'il veut cependant aller dans une logique qu'avait commencé à ébaucher Jack Dorsey, qui est le fait de dire, j'ouvre le code, les gens pourront voir les communautés qu'ils veulent parce qu'ils vont pouvoir utiliser l'algo qu'ils veulent. C'est des choses qu'avait dit Jack Dorsey à l'époque. C'était la vision de Dorsey, qui d'ailleurs, à mon avis, c'est pour ça qu'il a poussé Musk, en disant, si toi, tu arrives à le faire, parce que moi, j'ai pas réussi à le faire. Admettons, il y a cette logique de dire qu'il veut faire de Twitter une super app à la WeChat, en gros, qui permet de faire plusieurs trucs, pourquoi pas. Dans tous les cas de figure, je pense que Twitter est un club. C'est pas la plus grosse communauté du monde, mais c'est une communauté de gens influents avec énormément de retentissement. Donc très clairement, c'est pour ça qu'on s'en parle aujourd'hui, qu'on fait un podcast là-dessus. Très clairement, je pense pas qu'on aurait fait forcément un podcast sur Pinterest, tu vois. Donc très clairement, il y a cette notion-là qui est importante. Après, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, t'as Blue Sky, donc qui est lancé par Jack Dorsey, qui dit bah moi je fais un truc décentralisé, etc. Est-ce que Musk arrivera à faire ça ou est-ce qu'il ira au bout du truc ?
Mais moi, je pense que Jack Dorsey, on va le voir revenir. Hein.
Mais ça m'étonnerait pas que Dorsey repasse.
Et avec une vision très décentralisée. On sait que Jack Dorsey, c'est devenu un crypto-maximaliste, plutôt Bitcoin d'ailleurs. Ça serait pas étonnant.
Voire même que Blue Sky soit un brouillon de ce que pourrait être un Twitter qui éventuellement réintégrera ensuite Jack avec son produit, tel Steve revenant chez Apple avec la plateforme sous les bras qui donne des sens à OS X.
Et c'est pas étonnant que ça s'appelle Blue Sky, la couleur blue, et les oiseaux, ils volent dans le ciel. Donc, c'est pas étonnant. Bon, bah, on va s'arrêter sur ça. On verra, on refera une émission dans un an pour voir si on avait raison ou pas. Mais voilà, on a essayé d'aligner les faisceaux, on a essayé de vous raconter l'histoire de Twitter, on a essayé aussi de vous donner notre analyse de cette histoire de Twitter. J'espère que cette émission vous a plu. Damien, tu as été un plan B magnifique.
Je te remercie. C'est genre, t'étais pas dispo ce soir, ma chérie, donc j'ai appelé quelqu'un d'autre.
Ouais, non, c'était super. Non, c'était cool. Bon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Silicon Carnet. Hasta luego, amigos!